génération devant.
Enfin reste, c'est pas très drôle quand même. Et je parle pas pour eux, je parle pour nous. Franchement. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors qu'ils auraient pu bénéficier d'une heure de sommeil en plus. Je sais pas si ça les perturbe beaucoup, eux. On verra la semaine qui arrive. Vous, ça vous perturbe l'heure qu'on vient de prendre en plus là? Ou ça vous perturbe plus de savoir qu'au printemps prochain, vous allez en perdre une? Les enfants restent. Les enfants restent avec nous, alors que bien souvent, ils sont un petit peu écartés, ils font un peu trop de bruit, ils s'agitent, ils sont assis là, voilà. Même les enfants reprennent les enfants. Chut, il lui dit. Ouais, quand les enfants reprennent les enfants, bon, ben, les adultes n'ont plus de travail. Voilà. Et ouais, j'ai deux versets dans les Proverbes qui m'ont toujours marqué, qui m'ont posé, alors pas de grandes difficultés, mais qui m'ont toujours posé une petite question sur pourquoi le Seigneur il fait exprès de nous mettre des nœuds au cerveau avec des versets qui se suivent de pas très très loin et qui apparemment ont pas l'air d'être bien compatibles ou qui nous laissent la réflexion. Il y en a un dans Proverbe 20 qui dit que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Voilà, merci. Bon, bah, du coup, nous les adultes, on n'a plus rien à faire. En fonction de ce que l'enfant, son comportement quand il est petit, bah du coup, on a plus ou moins de soucis à se faire, ou on a plus ou moins de réjouissance. On se dit, bah voilà, il va être comme ça, c'est un peu la fatalité. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Et deux chapitres plus loin, enseigne, alors il y a certaines traductions qui disent le garçon, apparemment les filles ne sont pas concernées, enseigne le garçon ou l'enfant dans les voies qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc du coup, vous avez tous plus ou moins l'expérience soit d'être parent, soit d'être grand-parent, soit d'être oncle ou tante. Et même si vous n'avez pas eu d'enfant, vous avez été enfant. Et du coup, on fait quoi avec ces versets? On fait quoi avec ce verset qui dit que si on nous enseigne selon la voie qu'on doit suivre, déjà il y a une condition, il faut qu'on ait été enseigné, eh bien, même quand on sera vieux, on s'en souviendra. Et on a tous des contre-exemples. Et certainement, on est même soi-même le contre-exemple. Donc du coup, là, ça ne s'applique pas de dire à la fin toute ressemblance avec des personnes qu'on connaîtrait serait fortuite. Là, ce n'est pas fortuit du tout. Et Claire, tout à l'heure, a cité ce passage dans Marc, où Jésus reprend ses disciples en disant « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Les parents amènent leurs enfants à Jésus pour qu'ils soient bénis. Et puis, en fait, c'est un monde d'adultes. Hein. Jésus est très, très occupé. Il est même certainement fatigué. Alors, s'il vous plaît, veuillez prendre votre progéniture et l'emmener un petit peu plus loin, qu'il y ait un peu moins de bruit. Et c'est pas la place pour les enfants. Jésus les reprend, se fâche et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'est intéressant ce que Jésus a fait avec les disciples, comme nous on ferait avec des enfants. En fait, il s'est fâché avec eux. Il les a repris et il leur a dit « Ne les empêchez pas ». Et Jésus montre non seulement par là son amour envers les enfants, mais aussi il en fait un modèle, parce qu'en fait sa phrase n'est pas finie. « Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent ». Alors, dans mon travail, il m'arrive de m'occuper de tout petit. Alors, ça va changer de moins en moins, mais voilà, il m'arrive de faire des interventions de motricité dans les crèches, donc pour les enfants de moins de 3 ans. Et dans mon métier d'éducateur sportif, on a une phrase que certains d'ailleurs doivent connaître dès lors qu'on est avec des enfants, c'est que le premier frein au développement moteur d'un enfant, c'est l'adulte. Voilà, le premier frein au développement moteur, j'imagine pour d'autres développements, pour l'enfant, et ben en fait, c'est les adultes qui les entourent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enfant, lui, il n'a pas d'a priori sur le danger, monter sur un banc, passer sous une table, courir dans une pièce où il y a une porte vitrée, parce que lui, il n'a pas vu qu'il y avait une vitre, faire tout un tas de choses, en fait, qui ont l'air d'être très spontanées. Et l'adulte est là pour lui mettre des attentions, des sens interdits, des tu fais pas ci, pas à ce moment-là, il y a des règles, c'est pas l'heure, etc., etc. Fais pas ci, fais pas ça, pour ceux qui connaissent la chanson. Fais pas ci, fais pas ça. Et je me rappelle, donc, pendant un de ces cursus de formation auprès de mes collègues qui sont auxiliaires puéricultrices, être passé dans une des pièces où il y avait les plus petits, les 12, les un petit peu moins qu'un an, donc qui ne sont pas encore tous debout. Et il y avait deux sœurs jumelles qui étaient là, et alors copie conforme, mais en fait on n'aurait pas pu se tromper, alors que souvent avec les jumeaux on peut se tromper, et là copie conforme, vraiment, copie conforme, sauf qu'il y en avait une très souriante, assise, très souriante, qui chantait, voilà, avec ses mots de tout petit, très agréable, quand il y avait un adulte qui passait, elle souriait, et 3 mètres à côté, sur le tapis, allongée, il y avait sa sœur qui râlait, qui pleurait, et qui n'était jamais contente. Alors, il se trouve que là, pour le coup, ça rappelle des choses à des jumeaux, non, ou des jumelles je me suis posé la question, je me suis dit, bon voilà, c'est ponctuel, c'est juste maintenant, c'est aujourd'hui, il y en a une, elle n'est pas dans son assiette, ça ne va pas bien. Donc je me suis approché, celle qui était très agréable, déjà assise, elle m'a vu arriver, lève les bras, et voulait grimper, je ne sais pas, sur un coussin ou autre, et elle s'est dit, bah voilà, il y a quelqu'un qui va m'aider à faire mieux que ce que je sais déjà faire. Et puis, il y avait sa sœur à côté, dès que je me suis approché de la sœur qui était joyeuse, alors là, elle a poussé des cris encore plus forts. Donc, du coup, bah, j'ai accompagné la première qui avait l'air d'être très volontaire, juste sur un atelier, puis je suis allé voir la deuxième, et là, tout de suite, j'ai une de mes collègues qui est venue me voir, enfin, laisse tomber avec elle, ça ne marche jamais. Voilà, laisse tomber, ça ne marche jamais. Alors je suis allé la voir, je lui ai dit, comment ça ne marche jamais? Elle est tout le temps en train de râler. Quand elle arrive le matin dans la poussette double, elle râle, la maman, elle s'en sort pas, c'est toujours elle qui râle, du coup on ne peut pas les confondre. Mais elle râle toute la journée, elle n'est jamais contente, ça ne va pas. Je dis bon, on verra. Donc là, voilà, une espèce de malédiction, là, voilà. C'est, de toute façon, avec elle, tu n'y arriveras pas. Je n'avais encore rien essayé, mais ça ne marchera pas. Et du coup, moi dans ma petite tête, j'ai l'adulte et le premier frein au développement moteur de l'enfant. Et apparemment, elle, c'était même pas du développement moteur dont elle avait besoin, c'était qu'elle n'arrivait pas à se mettre assise, rien du tout. Quand on lui prenait les mains, tout bloqué, ça n'allait pas. Elle n'arrivait pas à se retourner. De toute façon, il n'y avait rien qui allait. Je suis revenu 2 jours plus tard, même contexte. Et c'était toujours la même. Et ma collègue qui me dit, t'as vu, je t'avais dit. Elle râle encore. Elle râle encore. Et en fait, j'ai dit, mais en fait, c'est pas juste. J'ai dit, est-ce qu'elle a un souci physique? Est-ce qu'elle a... Voilà. Non. En fait... Dès que sa sœur était dans la même pièce qu'elle, eh ben, ça faisait réaction. C'est-à-dire qu'il y avait celle qui était tout le temps contente, celle qui était tout le temps heureuse, et l'autre, en fait, elle le ressentait. Elle le ressentait, et elle n'y arrivait pas. Et comme elle n'y arrivait pas, eh ben, du coup, elle entendait toute la journée, « Ah ben toi, de toute façon, tu râles tout le temps. » Et du coup, il y a le comportement des adultes qui va avec. L'autre, eh ben, on la prenait gentiment par la main, elle était souriante en plus. Et c'était facile de s'occuper d'elle. Du coup, ben, on l'accompagne gentiment, et puis l'autre, elle voyait. Que quand on la prenait, elle, c'était « Bon, allez, bouge !» Et on t'attrape et on te met ici. Et puis, ah, t'as pas fini de râler ? Ah, faut encore te changer, c'est encore ton tour ? Alors que l'autre, elle faisait dans la couche autant que l'autre, hein, donc de toute façon. Eh bien non, c'était agréable avec un, avec l'une, et pas avec l'autre. Et il m'a fallu un bon mois à passer régulièrement, et pour qu'en fait, elle accepte de se mettre assise, de commencer à sourire. Et donc, j'ai, évidemment, moi, je la voyais que 45 minutes par jour, deux fois par semaine. Et on a passé la consigne aux collègues que tout son environnement devait changer en fait d'attitude envers elle pour qu'elle puisse, eh ben, en fait, décoller, pour qu'elle puisse changer d'attitude et pour que ça aille mieux et pour qu'elle puisse, eh ben, en fait, avoir le sourire. Ça a pris du temps, mais cet enfant, peut-être que toute sa vie, eh ben, en fait, elle va avoir ce côté un peu renfrogné, un peu pas trop joyeuse. Mais ce contexte, il a été en grande partie créé par son environnement d'adulte. Merci. Voilà. Et le Seigneur, il dit quoi, là? Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et ce passage qui nous montre que Jésus accorde une tellement grande importance à des enfants qui, déjà à son époque, étaient considérés même pas comme des citoyens, ils n'avaient... Voilà, ils étaient insignifiants dans cette société. Et Jésus, lui, va à contre-courant, un petit peu comme à chaque fois qu'on rencontre Jésus, il va à contre-courant. Et il valorise les enfants devant les adultes. Encore un truc qu'on essaye de nous apprendre qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas le faire, ça. Parce que sinon, après, l'enfant, il va devenir orgueilleux. Hein ? On le prend à part, on lui dit que c'est bien, mais pas trop devant tout le monde, parce que sinon, il va penser qu'il est très très fort, qu'il est très très bon. Et puis, mais en fait, on peut valoriser de manière juste, sans... sans en faire non plus des tonnes, comme on dit, et le faire avec justesse. Jésus lui fait devant tout le monde, en plus il reprend même les adultes devant les enfants, là, puisqu'il leur dit, laissez-les venir, vous, arrêtez de les empêcher. Et il ne se contente pas de dire qu'ils sont importants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors évidemment, il y avait une chanson, c'était qui ? Enrico Macias, qui disait que regardez l'enfant comme il est pur, comme il est innocent. Oh là là, non, en fait non, nous on le sait. Et puis c'est écrit dans la Bible que dès notre plus jeune âge, dès le sein de notre mère, eh bien, en fait voilà, le péché est là. Donc c'est pas vraiment exact. Ils sont pas purs, ils sont pas innocents. Ceux qui ont des enfants, ils le savent très bien. Et ceux qui n'ont pas d'enfants voient les enfants des autres. Et par contre, ils sont humbles avant que les adultes commencent à leur mettre des échelles de valeur. Ils sont humbles, ils ne sont pas encore pollués par le monde des grands et ils ne se préoccupent pas en fait de leur statut social, de leur possession, de leur réalisation, ce qu'ils vont arriver à faire. Ils sont assez nature et Jésus nous appelle à avoir un cœur semblable, un cœur simple et humble, prêt à recevoir la grâce de Dieu sans prétention ni orgueil. Et quand ils sont entourés, quand ils sont bien entourés, avec amour, les enfants ont une confiance naturelle vers les adultes. Quand ils sont mis en confiance, alors j'en parle aussi bien parce que les deux ne sont pas là ce matin, nous on avait Mickaël, quand il était petit, il serait parti avec n'importe quel inconnu. Quelqu'un qui lui faisait un sourire, il partait. Puis il y avait sa petite sœur qui arrivait derrière, même les gens qu'elle connaissait, elle commençait par regarder comme ça, en disant, voilà, alors bon, on a notre tempérament, on a notre caractère, mais l'enfant, si on a un regard bienveillant et si on les entoure avec bienveillance, ont quand même naturellement de la confiance dans les adultes qui les entourent. Et nous devrions avoir cette même attitude avec le Seigneur, qui pourtant nous reprend, qui pourtant nous donne des règles. Et Jésus nous invite donc à avoir une confiance totale en Dieu, à dépendre de lui, comme les enfants dépendent de leurs parents, dans tous les aspects de notre vie. Nous sommes appelés donc à abandonner notre besoin de tout contrôler et nous fier à la bienveillance et à la providence du Seigneur, comme le font les enfants. Ils ne se posent pas la question si à midi, s'ils se posent la question à midi de ce qu'il va y avoir sur la table. Mais ils savent qu'il va y avoir quelque chose sur la table. Ils le savent. Voilà. Ils ont peut-être des préférences. Je ne sais pas si je m'adresse au premier rang, là. Il y a des casse-croûtes qui sont préférées. Il y a des repas qui sont préférés. Vous citez pas de marque, hein, surtout. D'accord ? Interdit ici. Hein ? Qu'est-ce que vous préférez manger ? Vous savez que vous allez manger à midi ? Voilà, je le savais. Voilà, c'est tout. Et il faut avoir des repères dans la vie. Et il y a maman qui fait. Non. Jésus nous montre également que nous avons une responsabilité importante envers les enfants. Les disciples, bien que apparemment bien intentionnés, voulaient éloigner les enfants de Jésus, mais Jésus les corrige en leur disant « ne les empêchez pas ». Mais comment est-ce qu'un adulte pourra empêcher un enfant ? Déjà, physiquement, on est déjà un peu plus imposant qu'eux. On a une certaine marque d'autorité quand même. Les enfants ressentent quand ils arrivent dans une pièce ou dans un endroit si c'est pas fait pour eux, quoi. Si, voilà. Mais de génération en génération, on fait ça. D'accord ? Il n'y a qu'à voir comment on est disposé dans la pièce, là. Le groupe de jeunes, qui est abondamment absent, derrière vous, là. Vous avez vu comme c'est calme ? Ils sont pas là, ils sont tous à connexion, là. Ils viennent se mettre à un endroit, parce qu'ils ont identifié que c'était par là, chez eux. Et puis, la génération du dessus se regroupe, et puis la génération d'après se regroupe. Voilà. Et puis, on a un petit peu tendance, quand on arrive dans une pièce, à repérer si c'est fait pour ma génération ou pas. Puis, du coup, on a plus ou moins de facilité à se fondre avec les autres générations. Et Jésus les corrige, leur dit, ne les empêchez pas. Ne les empêchez pas d'approcher. Mais comment est-ce qu'on peut les empêcher ? Malheureusement, tout simplement, en étant un obstacle, nous, à leur foi. Ah, t'as vu à l'église junior que Jésus, il avait fait ça, il avait marché sur l'eau. La prochaine fois qu'on va au lac, il est hors de question que t'essayes. D'accord ? Et pourtant, Jésus, il l'a fait. Et il a dit que si on demandait quelque chose en son nom, je pourrais le faire. Alors, il y a du chemin à faire pour comprendre les miracles. D'accord. Mais pour un enfant, Jésus, il a marché sur l'eau. Et pour vous, j'espère que Jésus, il a marché sur l'eau. Mais avec le temps qui passe, est-ce qu'on pense toujours que Jésus a marché sur l'eau ? Oui ? Voilà. T'as déjà essayé, Anna ? Voilà. Mais tous les autres miracles, les enfants, ils les prennent. Tout ce qui est écrit, c'est la vérité là tout de suite. C'est la vérité là tout de suite. Et Jonas était vraiment dans un poisson. Jonas était vraiment dans un poisson. Même le poisson, il y croyait pas, quoi. Voilà, il y a Jonas là à l'intérieur de moi. Et on peut être donc un obstacle à leur foi. Alors que nous devrions les encourager à grandir spirituellement, à découvrir Jésus, à approfondir leur relation avec lui, et nous on vient et on met plein de règles, comme des pharisiens. On rajoute des règles. Si tu veux obéir au Seigneur, si tu veux lui plaire, il faut que tu fasses ci. Surtout, il ne faut pas que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça. Et nous avons souvent un langage qui est négatif et qui donne des ordres négatifs, ne pas faire. Du coup, il y a un bon moyen, en se taisant, d'être encourageant et d'être de bons enseignants de nos enfants, c'est de montrer l'exemple. Et du coup, on évite de dire des choses qui sont négatives, on montre l'exemple, et les enfants qui, là, sont comme des éponges à éponger tout ce qu'il y a autour d'eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, s'ils voient des bons exemples, ben, y a une probabilité qu'ils souhaitent faire la même chose. Et puis nous avons à créer un environnement favorable. Nous devons créer des espaces, comme celui-ci, ou comme celui de connexion en ce moment pour nos jeunes, où les enfants se sentent aimés, valorisés, et où ils peuvent apprendre à connaître le Seigneur mieux, toujours plus. En les éduquant à la maison, à l'église, et aussi quand le culte sera fini tout à l'heure. Le reste du temps, c'est pas que de 10h à 11h30. C'est tout le temps. Pas facile, parce que le tout le temps, il est pris par notre agenda, le tout le temps. Et combien de fois on se dispute dans la voiture avant d'arriver ? Et combien de fois on se dispute dans la voiture en repartant ? Et pas que sur le menu de midi. Hein. Combien de fois, une fois qu'on a passé la porte, là, tout à l'heure, à 11h30, voilà, la semaine reprend ses droits. Et puis, on fait un petit débriefing. Vous avez vu quoi à l'église junior ce matin ? Et le temps qu'ils essaient de nous l'expliquer, ouais, en fait, t'as rien écouté. Parce qu'ils ne savent pas le dire forcément avec les mêmes mots que leur animateur ou animatrice l'a dit. T'es sûr que t'as vraiment écouté ? Et on a plein d'exemples de jeunes qui, pendant des années, avaient l'impression de ne pas être présents pendant qu'on était animateur ou animatrice d'église junior. Et en fait, c'était dans leur cœur, parce que c'est passé par leurs oreilles. Et ils ont vu, et ils ont lu, et ils ont fait des ateliers qui leur ont permis de se souvenir. Alors laissez venir à moi les petits-enfants, c'est un appel à tous les croyants à redécouvrir l'importance des enfants dans le royaume de Dieu. En tant qu'adultes, il faut que nous puissions nous demander comment pouvons-nous mieux les accueillir ? Comment pouvons-nous les aider à rencontrer Jésus ? Et comment nous pouvons nous rappeler collectivement que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ? Alors il y a un domaine, et on l'a expérimenté ce matin, et je vous invite à l'expérimenter toute la semaine. Il y a un domaine dans lequel, eh bien, en fait, c'est assez facile à mettre en œuvre. Et il suffit que nous redevenions un petit peu plus spontanés et un petit peu plus humbles aussi. Et c'est le domaine de la louange. Et la louange est un élément essentiel dans la vie spirituelle des croyants. J'imagine que c'est un élément essentiel dans votre vie. Et les enfants en sont les bénéficiaires et les acteurs aussi. Avec leur simplicité, qui est souvent perçue comme étant particulièrement réceptive à la présence de Dieu, leur participation à la louange dans la communauté est une expérience joyeuse et enrichissante pour eux et pour nous. Alors voici quelques exemples très pratiques. On l'a fait ce matin, le chant et la musique. Vous avez déjà passé, si vous avez 5 minutes, vous vous arrêtez devant une cour d'école au moment de la récréation. Il y en a qui chantent, naturellement. Ils chantent, voilà. Les petits, ils chantent. Naturellement, ils inventent des chansons où ils ont récupéré un air qu'ils avaient déjà, puis ils chantent. Ils décrivent le jeu qu'ils sont en train de faire en chantant. Alors ils sont naturellement prêts et disposés à chanter les louanges du Seigneur pour peu qu'ils sachent pourquoi il faut le faire. Ils peuvent exprimer leur amour et leur gratitude envers Dieu, et nous devons permettre aux plus jeunes de chanter les cantiques et des chansons de louange qui sont simples et adaptées à leur âge. Mais en fait, on est tous des enfants, parce que parfois, on ne comprend même pas ce que l'auteur a voulu dire. Ça vous est déjà arrivé ? On se dit, mais quel langage tellement compliqué il a voulu faire pour nous décrire Et puis parfois, ah ça me parle. Et puis quand c'est une autre période de l'histoire de la musique, eh ben là on comprend un peu moins. Mais ça a dû parler à des personnes parce que culturellement, bah, à ce moment-là, ça correspondait. Mais du coup, que nous puissions avoir un langage qui soit simple et qui puisse comprendre ce qu'ils chantent. Soyons aussi comme des enfants vis-à-vis de ces chants. Il peut y avoir des activités créatives, le dessin, la peinture, la création d'objets, qu'ils vont ramener. C'est formidable, hein, ça, les parents. Hein. Quand vous ramenez, surtout avec les petites classes, quand vous ramenez dans la voiture la petite chose qu'ils ont confectionnée et que eux, ils espèrent que ça ne va pas rester dans la voiture. Et il faut surtout le mettre à un endroit à la maison où maman ou papa ou un adulte va devoir faire la poussière régulièrement en essayant de ne pas balancer à la poubelle le truc qu'ils ont fait il y a 8 ans. Parce que pour eux, ça représente quelque chose. Ils l'ont fait quand ils étaient au Colibri ou aux Mésanges. C'était vraiment quelque chose d'important. Ils l'ont fait avec leurs propres mains. Pendant qu'ils entendaient une histoire de la Bible, ils ont fabriqué ces petits objets et ils en sont fiers. Même si ce truc, ils vous disent que ça ressemble à ça et qu'en fait, ça ne ressemble pas à ça. Mais pour eux, oui. Et ils l'ont fait à un moment où ils entendaient la parole du Seigneur. Les activités créatives. Et tous les adultes ne sont pas doués pour enseigner ce genre de choses. Promis. Et ce n'est pas grave. Et il y en a qui le font très bien. Les histoires de la Bible. On est bercé d'histoires. Télévisées, au cinéma, à la radio, dans les chansons, de partout. On est baigné d'histoires. On leur raconte des histoires tout le temps. Il faut qu'ils puissent entendre un maximum d'histoires qui viennent de la parole de Dieu. En racontant les histoires de la Bible, les enfants apprennent à connaître les merveilles du Seigneur. Les merveilles que le Seigneur a accomplies et assis à l'adorer pour ses miracles. Ces récits sont inspirants et peuvent nourrir la foi et renforcer leur désir de louer Dieu. Et un autre domaine dans lequel eh bien, les adultes, Claire en a parlé tout à l'heure, nous sommes parfois un petit peu étriqués, c'est les gestes et l'expression corporelle. Dans certaines cultures, la louange à Dieu peut aussi passer par des mouvements corporels comme la danse. Les enfants participent simplement à la danse. Il n'y a rien qui se passe dans une pièce, on met de la musique, les enfants ils bougent. Comme ça. Ils bougent. Le regard des autres, pas grave. Ils le sentent. Et les enfants participent à des danses simples ou à des gestes qui illustrent les chants de louange, ce qui leur permet de s'engager de manière plus physique dans l'adoration. Parce qu'on voit au travers des Écritures que quand on adore, notre être tout entier se met en mouvement. On a déjà évoqué que les adultes peuvent encourager les enfants à connaître la grandeur de Dieu dans leur vie quotidienne. Ce n'est pas fini à 11h30 tout à l'heure. En apprenant aux enfants les principes spirituels comme la reconnaissance, l'amour pour les autres, ce sont des concepts qu'en fait les enfants comprennent. Dire merci, aimer son prochain. On l'a chanté tout à l'heure dans « J'ai un cœur qui bat ». À apprendre à faire à l'autre rien de méchant. Par déduction, c'est plutôt faire à l'autre des choses qui sont gentilles, parce que j'aime qu'on en fasse pour moi. Et leur montrer comment la vie elle-même peut être une forme de louange à Dieu. Mon comportement, c'est une louange au Seigneur. Si mon comportement est en adéquation avec ce que le Seigneur me demande. Alors l'implication des enfants dans la louange au Seigneur aide à cultiver leur foi, leur permet de comprendre qu'ils font partie d'une plus grande communauté de croyants. Et cela contribue également à leur développement spirituel et personnel en les encourageant à grandir avec des valeurs de gratitude, dire merci, de respect et d'amour pour le Seigneur. On ne va pas les enseigner à avoir peur du Seigneur. On ne doit pas les enseigner à avoir peur du Seigneur, mais à le respecter. Alors que faisons-nous avec ces versets de Proverbes qui disent que l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite? Le Seigneur là, nous place devant une vérité, c'est que nous sommes chacun responsables de nos actions et de ce que nous allons faire, mais surtout qu'on se doute peut-être pas de l'impact et de l'importance que l'on peut avoir à chaque fois qu'on croise un enfant, à chaque fois qu'on croise un jeune, à chaque fois qu'on croise un adulte, une personne âgée, on ne se rend pas forcément compte de l'impact que l'on peut avoir en bien ou en mal, parce que c'est rarement neutre. C'est rarement neutre. Nous sommes en famille ici, entre frères et sœurs, et l'impact, il est encore plus grand. Il est encore plus grand. Vous n'avez jamais apprécié, j'imagine, si ça a été votre cas, vous savez, être le dernier sur le groupe à être choisi pour jouer dans une équipe. Je déteste cette façon de faire. Je reprends à chaque fois les éducateurs qui le font, de dire, allez, il y en a deux qui sont leaders, là. Là, j'en connais deux, trois, là, parce que j'en ai eu deux, trois en sport. Je sais que si je mets l'un ou l'autre, hein, Elliot, et que je le mets capitaine d'équipe, lui, il a déjà pensé, en regardant le groupe, qui il va mettre dans son équipe. Parce qu'il est très stratégique, il voit tout de suite juste. Et puis, il y a ceux qui ont un peu plus d'empathie. Je ne dis pas qu'Elliot n'a pas d'empathie. Je dis que lui, il sait que le match de foot, il va falloir le gagner, ou le match de rugby, il va falloir le gagner. Alors, du coup, il repère tout de suite, parce qu'il a vu à l'échauffement comment ça se passait. Et puis, du coup, le souci, c'est qu'à la fin, il va y rester... alors, on espère qu'ils sont un nombre pair. Voilà. Et puis, il y a ceux qui sont un peu laissés pour compte, qu'on ne va jamais choisir. Et eux, ils voient le groupe qui s'en va au fur et à mesure. Équipe rouge, équipe bleue, équipe rouge, équipe bleue, équipe rouge, équipe bleue. Ah, bah peut-être je vais faire arbitre, ou peut-être moi je serai que remplaçant. C'est terrible. C'est à l'adulte dans ces cas-là de faire les équipes. Avec un peu de discernement. Et puis d'éduquer les leaders à choisir correctement, et surtout en préservant l'équité, avoir un peu de compassion. Et parfois on est surpris d'avoir des équipes, des assemblées, des groupes de personnes qui a priori sur le papier n'était pas l'équipe de vainqueur et qui gagne quand même. Parce que si cette équipe elle a été constituée avec de la compassion, avec de l'amour, avec de la gratitude et avec du respect du Seigneur, si cette équipe elle a été formée de cette manière, elle part sur des bases plus solides que l'équipe qui était censée être la Dream Team, qui est composée qu'avec des personnes qui ont des égos qui sont surdimensionnés, qui est composée qu'avec des stars, mais qui n'arrivent pas à s'entendre dans une équipe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, ils tirent la couverture à eux. Et ça, c'est pour conclure mon propos sur l'impact que nous pouvons avoir. Ayons un regard d'enfant quand on se regarde les uns les autres, humble, avec de la compassion, comme le Seigneur l'a demandé. Le Seigneur, il nous a demandé de leur ressembler, dans l'humilité et de leur ressembler dans la simplicité et la dépendance que nous avons envers lui. Amen. Il me semble que nous avons